Monde Noir, le retour, deuxième partie. Donc, nous allons commencer par un roman noir. L'espionnage peut-être ? Pas vraiment.
Peut-être, puisque donc c'est un livre qui s'intitule Le Grand Jeu. Son auteur en est Percy Kemp et c'est paru aux éditions du Seuil. Et Le Grand Jeu, tu viens de dire, c'est donc l'art de l'espionnage. Et ce roman, c'est bien un roman d'espionnage. Mais comme l'écrivain s'appelle Percy Kemp, c'est vrai qu'il y avait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles, tout au moins au niveau des romans noirs. Mais on sait qu'en entamant la lecture, on va profiter de digressions philosophiques, géopolitiques, théologiques. Et tout ça avec beaucoup de maestria et beaucoup de talent. Ceci dit, le récit ne s'arrête jamais, pas de didactisme poussif, hein, tentant à ralentir la narration, ça va très très vite et il y a beaucoup de rebondissements. Et on va retrouver, ou on va rencontrer, puisque vous n'avez peut-être pas lu le précédent, hein, qui s'appelait Le Mercredi des Cendres, mais on va et d'autres d'ailleurs, parce que c'est un personnage que Percy Kemp suit depuis très longtemps. Donc je disais que le personnage principal de ce roman, un des personnages principaux, est le très très flegmatique, mais alors vraiment flegmatique. Et on pourrait même dire feignasse, en fait. Mais non, parce que comme c'est un anglais, on va dire flegmatique. Et c'est Harry Boone, c'est l'agent secret de Sa Majesté. Enfin, l'autre, évidemment. Et on se retrouve à un moment très particulier, puisque des éco-terroristes ont fait exploser le volcan du Yellowstone et ont donc plongé l'hémisphère nord dans une semi-obscurité qui a anéanti récoltes, bétail, tout ça causant des millions de morts. L'hémisphère sud s'en sort un petit peu mieux, en particulier l'Australie, où sont d'ailleurs réfugiés agents américains et anglais, tentant vainement de reprendre du poil de la bête et un pouvoir que les anglo-saxons et ce qu'on appelle les grandes nations, hein, les nations soi-disant civilisées et développées, ont perdu au début de ce roman, tout au moins évidemment pour le moment. Boone, Harry Boone, contraint et forcé, vous verrez pourquoi, va partir pour Cochin. Cochin, c'est sur la côte de Malabar, en Inde, pour tenter de trouver avant tout le monde, un biologiste qui aurait apparemment la recette d'une algue miracle qui, par une production énorme et très économique, pourrait sauver donc le monde de la famille. Et si possible, redonner en même temps santé, mais surtout prospérité au monde occidental. Cochin, c'est aussi là que doit se rendre le jeune Mick, un jeune homme. Sa mère a été tuée par des hors-la-loi lors de l'attaque de leur petite communauté qu'ils ont montée justement après le cataclysme. Le jeune garçon doit y retrouver son père qui est lui-même de nationalité australienne et si jamais il n'arrive pas à le retrouver, s'il se trouve qu'il est décédé, il doit se faire reconnaître des autorités australiennes qui ont recréé en gros une situation de colonisation dans une île accolée à Cochin. Bien sûr, Boone et Mick ne peuvent que se rencontrer. Et je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser le plaisir de suivre leur péripétie dans un roman d'aventure palpitant aux rebondissements multiples. Comme je l'indiquais au début, c'est un bon roman d'espionnage, mais Percy Kemp y convoque aussi Graham Greene, Eric Ambler, mais aussi le Jules Verne de Mathias Sandorf, ou alors Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, c'est vraiment
là, c'est pour l'Inde.
Voilà, il y a l'Inde, il y a le jeune personnage, il y a plein de références. Il le cite même, hein, il est souvent évoqué. Et tous ces grands auteurs et plein d'autres références évoquées directement ou indirectement. Les références littéraires sont nombreuses, mais aussi références scientifiques, philosophiques. Car en filigrane, le sujet principal reste bel et bien, en toute simplicité, une partie de l'histoire de l'humanité. Ou comment l'attentat au parc du Yellowstone ressemble à s'y méprendre à une crise biologique qui, depuis que les êtres vivants sont apparus sur Terre, raye régulièrement du monde des vivants de multiples espèces, et si possible, même beaucoup. L'être humain n'en a encore jamais vécu de majeur. Mais une série d'éruptions volcaniques aurait, semble-t-il, restreint leur nombre à quelques milliers d'individus il y a environ 75 000 ans. Ce qui expliquerait d'ailleurs au passage que l'on partage, des milliers d'années plus tard, les mêmes mythes, déclinés sous de multiples formes. Et l'écrivain, au fil du récit, prend un plaisir certain à nous en évoquer quelques-uns. Roman d'érudit, c'est aussi le roman d'un homme qui aime, cela se sent, à raconter des histoires qui ne se terminent jamais, ainsi que des conteurs du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Voilà, donc je vais rappeler le titre, ça s'appelle « Le grand jeu ». L'auteur est Percy Kemp. Alors,
il est anglais, mais il est d'origine libanaise, si je ne m'abuse. Voilà. Et il écrit en français. C'est pour ça que tu n'as pas cité le traducteur.
Exactement, il écrit en français. Et puis j'ai évoqué, donc, il peut se lire évidemment, Le Grand Jeu peut se lire totalement indépendamment. Mais je vous conseille ensuite d'aller chercher le précédent, Noon Moon, Mercredi des Cendres, où il y a la genèse de cet attentat. Mais encore une fois, on peut lire celui-là complètement indépendamment. J'ai peut-être oublié de reciter les éditions du Seuil.
Voilà, voilà. Et d'ailleurs, le précédent est réédité en point Seuil.
Et voilà, était déjà au Seuil et réédité au point Seuil. Un petit peu de musique.
Un petit morceau à la mémoire de Gian Maria Testa, qui nous a quittés pour d'autres lieux. Il y a quelques semaines.
Quelques semaines maintenant.
Voilà, c'est un titre qui est enregistré en live avec Paolo Fresu et Roberto Cipelli, qui est le pianiste de Fresu souvent. Et c'était un concert qui était en hommage à Léo Ferré. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Joking Lady. Et donc, c'est en live, évidemment.
Merci de commencer, les gars. Tu dois faire l'intro, quoi. L'introduzione. Poche stelle verdera e niente luna. Un rovescio maledetto ed improvviso di fortune sono qui. Joking lady, come vedi, non ci riesco neanche adesso a dirti no. Passeremo questa notte bivaccando noi. Di cartone, la valigia è vero, è poco futuro. A quest'ora della notte non c'è quasi più nessuno neanche qui. Dirty lady, cosa credi? Sono già stato molto peggio di così. E non si dorme neanche male nella pancia di pane. Se ti piace io mi vado a promenare sul boulevard. Crazy, crazy lady, quanto chiedi per un'ora di carezze in fondo a un bar. Lascia andare, è troppo caro, non è roba da crociare. Quanto chiedi per un'ora di carezze in fondo a crazy lady? Ma quanto chiedi per un'ora di carezze in fondo a bar? Lascia andare, troppo caro, non è roba da crociare.
Voilà, c'était Gian Maria Testa. Et on va faire une spéciale pour cette dernière partie d'émission. Textes courts. Enfin, différentes formes littéraires de textes courts. Et je vais donc commencer par une novella. Alors, je rappelle qu'une novella, c'est un texte qui est entre une longue nouvelle et un court roman. Voilà, hein. Donc c'est la spécialité d'ailleurs de la collection Polaroid, qui est brillamment dirigée, je dirais, par Marc Villard. Et l'opus dont je vais parler s'appelle Far West. L'écrivain en est Marcus Malte, pardon, et c'est aux éditions Inuit. Dans cette collection, on avait...
Qui s'écrit In et le chiffre 8.
8, voilà, exactement. Donc, on avait déjà évoqué, on avait déjà parlé du superbe, un texte absolument magnifique.
Canis.
Canis, voilà, du même Marcus Malte. Et le recueil dont je vais vous parler, là, comporte en fait deux nouvelles, une novella, une nouvelle, enfin, deux courts récits très différentes. Je dirais avec comme point commun la faculté de l'écrivain de trouver les mots justes pour décrire la souffrance humaine. C'est pas habituel d'ailleurs pour les textes de cet écrivain. La première commence presque joyeusement. Le shérif d'une petite bourgade du Mississippi étant alerté qu'un gros lézard se balade en ville. Le même shérif doit aussi convaincre sa sœur que sa fille, sa nièce donc, ne peut s'entraîner à la carabine. C'est pas qu'il pense qu'elle est trop jeune, hein, c'est tout simplement qu'elle est aveugle. Donc c'est un peu dangereux, quoi. Enfin, on est aux États-Unis. Il y a encore quelques autres nouvelles étranges et de péripéties en nouvelles. On va s'attacher donc au pas de cet homme qui habite dans le sud profond des États-Unis, qui plaisante avec ses adjoints. Et ils se prendraient presque tous pour des héros de Marvel, ce qui donne un ton particulier à cette novella. Mais en gros, dans ce sud profond, le racisme est encore omniprésent et les traces du saurien vont dévoiler une sale histoire, une très sale histoire. Dans la deuxième novella, nous découvrons en quelques pages les destins de trois personnages. Lila, une jeune paumée qui va s'attacher au pas de José. Lui aussi paumé, il a en tête toutes les horreurs des conflits auxquels il a participé. Enfin, il y a le narrateur, Damien, qui a rencontré José en prison. Pour quelque temps, ils vont unir leur solitude, mais on comprend assez vite que ces solitudes, elles vont aller droit dans le mur. On ne va pas raconter les histoires des uns et des autres, parce que Marcus Malte, il le fait tellement bien. Chaque mot est à sa place. Chaque phrase est polie, sculptée, poncée, pour ne livrer que l'essentiel. En gros, des histoires d'amour. Des drames d'amour. Voilà, donc je vous laisse découvrir ces deux très très beaux textes, illuminés encore une fois par l'écriture de Marcus Malte. Ça s'appelle Far West. On a un très beau dragon de Komodo, je pense, sur la couverture. Et on va passer à un...
Eh ben, en fait, c'est pas un texte court voilà. Dont je vais vous...
Ah non, parce que...
Que je vais vous présenter, mais en fait, un millier. Toi, tu en avais deux, moi j'en ai un bon millier. Alors, c'est des textes de une à deux pages, parfois même de une à deux ou quelques lignes. C'est un livre qui est paru dans la collection Point Seuil, en édition de poche donc, mais qui fait plus de 700 pages, donc il faut quand même une bonne grosse poche. Ce livre s'appelle Un type bien, il est signé par Dashiell Hammett et traduit par Nathalie Benat. Et donc, ces mille et quelques textes, ben, c'est la correspondance de Dashiell Hammett, ou du moins... celle qui a pu être récupérée et retranscrite. Mais disons, c'est déjà une bonne partie. Des lettres qu'il a écrites à sa femme Joséphine, à sa compagne de toujours ou presque Liliane Hellman, à ses filles, Marie, à son autre fille Jo, à ses éditeurs, à quelques-uns de ses amis ou quelques-unes de ses amies IES, parce qu'il en a eu pas mal, c'était un coureur.
Hein. Ah oui, ça c'était un chaud lapin. Hein.
Et il faut dire, c'est un bel homme comme on voit sur la couverture. Et souvent, dans ses lettres, il n'évoque que des petits détails de la vie courante. Qu'il soit à l'hôpital pour se faire soigner. Je vous rappelle qu'il avait maladie des bronches.
Les étubards.
Voilà. Qu'il soit en prison pendant la période macartiste. Il a donc été en prison parce qu'il n'a pas voulu dénoncer les gens qu'on lui demandait de dénoncer. Ou alors qu'il soit à l'armée, dans les îles Aléoutiennes ou en Alaska. Ou alors, il fait simplement des demandes d'argent à ses éditeurs. Mais bon, toujours écrites avec la manière... Hammett. Il avait une devise. Never complain, never explain. ne pas se plaindre, ni de donner d'explications.
Il se justifie jamais.
On se justifie pas. Et c'est une devise qu'il a mis en œuvre dans ses romans, mais qu'il met aussi en œuvre dans sa vie, bien entendu, et donc dans ses lettres. Alors on n'est pas obligé de les lire toutes en in extenso. On peut sauter des passages, aller de l'avant, puis revenir, ou alors s'attacher à une période.
Ou à un de ses, ou sa femme, ou un de ses amis.
Alors les lettres sont classées chronologiquement, ça c'est plutôt assez logique, en 5 parties que les éditeurs ont choisi d'appeler écrivain, donc ça c'est le début, célébrité, c'est quand il va partir à Hollywood, quand il est soldat, parce qu'il a voulu absolument faire la guerre, bien qu'il soit malade et plus en âge, le côté militant, donc la période macartiste, et puis survivant, parce que à la fin il était malade en prison. Ça fait, en fait, toutes ces lettres forment une espèce d'autobiographie. Autobiographie sélective, puisqu'en fait il raconte à travers ses lettres bien ce qu'il veut. Et il raconte ses idées à travers des missives qui sont plus ou moins longues. Alors, je disais qu'on n'est pas obligé de les lire toutes. Il y a des moments frustrants parce qu'on aimerait bien quand même lire la lettre qu'il a reçue à laquelle il répond.
Oui, souvent, des fois, c'est une correspondance et on a les réponses.
C'est un peu le principe de certaines de ces correspondances, c'est qu'on lit qu'une seule partie des lettres.
Comme les conversations téléphoniques qu'on se
prend. Mais bon, c'est quand même intéressant parce qu'il a vraiment une patte d'écriture. Alors, il y a un petit truc sympa, c'est aussi de lire ou de noter tous les noms ou les surnoms qu'il donne à ses filles, à ses femmes, en tête de ses courriers. En fonction de ses humeurs ou des circonstances. Alors, sa femme s'appelle Liliane, il l'appelle Liliane, Lily, Lilichka, ma Lily. Ou alors, mais surtout, il y a sa fille Jo, il l'appelle Petit Hippo, ce qui est assez sympathique, mais de hippopotame, c'est pas forcément vu de loin, ça peut paraître pas tellement délicat.
Et pourtant, surcharge pondérale.
Voilà, et pourtant, le reste de la lettre est parfaitement délicate. Finalement, après ses lectures, tous ces documents, on peut conclure que le papa de Sam Spade et du Continental Hope et de Marie et Joe, c'était un type bien et ça porte vraiment bien le nom, cette correspondance.
Voilà, Dashiell Hammett, traduit par la spécialiste de Dashiell Hammett, Nathalie Bena. Voilà, alors il nous reste juste une minute. Je vous ai parlé du style de Marcus Malt. Donc je vais vous lire juste un petit extrait d'une lettre, parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y a aussi dans la première nouvelle des lettres d'une personne qui aime à l'être aimée. Et voilà, ce sont un petit peu pour tordre le cou à ceux qui peuvent encore dire que les romans noirs, c'est de la sous-littérature et qu'il n'y a pas de style et tout. Voilà, j'aime beaucoup ce passage, très court. Tu as décousu mes paupières et tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as rendu la vue. Tu as chassé de ton souffle les lourds nuages qui me cachaient le soleil et tu m'as montré que les plus noirs de ces nuages étaient blancs et tu m'as donné la preuve que le soleil était noir. Sonny Lowell, j'écris ton nom. Grâce à toi, je suis sûre désormais que le ciel existe et qu'il est bleu et qu'il est pur. En vérité, c'est par tes yeux que je vois, c'est à travers ton regard. Et alors je demande, qui sont les sauvages? Qui sont les esclaves? C'est eux. En lisant cette nouvelle, vous comprendrez ou vous apercevrez qui sont les autres, ceux qui empêchent cet amour très très beau. Voilà, on arrive au terme de cette émission.
Donc après une telle phrase, on ne peut pas en rajouter beaucoup.
Phrase traditionnelle, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs. Et donc,
à la prochaine
émission. On vous laisse avec les infos.